Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau portrait d'un jour dans l'histoire. Je reçois Benoît Schmitz. Benoît Schmitz, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Alors vous êtes normalien, agrégé d'histoire et vous préparez une thèse sur le pouvoir religieux du pape au VIe siècle. Vous êtes spécialiste d'histoire religieuse et nous entamons avec vous une série de portraits consacrés aux intellectuels catholiques du XIXe et du XXe siècle. Alors premier portrait, j'allais dire incontournable, premier portrait d'intellectuel catholique, un intellectuel laïque, il ouvre le XIXe siècle, il s'agit de Joseph de Maistre. Qui fut Benoît Joseph de Maistre? Quel type de personnage fut-il? Quel propos tint-il pour obtenir ce fameux statut d'intellectuel catholique?
Eh bien, Joseph de Maistre fut l'un de ces quelques laïcs qui, au lendemain de la Révolution, tentèrent de restaurer en France une pensée religieuse et plus spécifiquement une pensée catholique. Il fut du nombre des Bonald, des Ballanges, des Chateaubriand, des intellectuels laïcs, vous l'avez dit effectivement, ce ne sont pas des théologiens, des clercs, mais ces laïcs ont voulu rétablir les bases d'une pensée religieuse et c'est ce qui a pu faire dire à Paul Bénichoux qu'ils avaient établi un nouveau pouvoir spirituel, s'insérant ainsi dans un mouvement beaucoup plus général datant des Lumières, qui était celui du sacre de l'écrivain, de ce nouveau pouvoir spirituel. Alors, intellectuel catholique, certes, mais d'une façon profondément nouvelle au lendemain de la Révolution, au point qu'on a même pu parfois parler à leur propos d'une vaste hétérodoxie. Le mot est une fois de plus de Paul Bénichoux, parce qu'ils ont développé une apologétique qui, finalement, s'éloignait des cadres anciens de la doctrine catholique, même s'ils cherchaient à la rejoindre et à la restaurer, mais c'était par des voies profondément nouvelles.
Mmh. Il inaugure un nouveau type d'intellectuel ?
À cet égard-là, oui. Il inaugure indéniablement un nouveau type d'intellectuel. Il tente finalement de faire le pendant aux philosophes des Lumières et d'être ce type de penseur, d'écrivain inspiré, d'écrivain souvent au ton prophétique, s'efforçant d'établir finalement une nouvelle légitimité pour la religion chrétienne.
Mmh. Alors, est-ce à dire qu'avant, il n'y avait pas ce pendant, comment sur le plan de la pensée ?
Eh bien, vous aviez, on le voit assez bien dans la réponse aux Lumières qui a pu être donnée par un certain nombre de clercs catholiques au XVIIIe siècle. Ils ont tenté de restaurer, de redonner vie à la doctrine chrétienne face à la critique très forte des Lumières, mais ça a été sans véritable succès. Il faut bien dire qu'avec la génération de Joseph de Maistre se lèvent des hommes disposant d'une plume exceptionnelle, très souvent, et à même donc de faire véritablement concurrence à la figure du philosophe des Lumières.
Alors nous allons établir une chronologie de sa vie, une biographie intellectuelle, si je puis dire. Quelles sont ses origines ?
Alors, Joseph de Maistre est né en Savoie. Il est né à Chambéry en 1753. La Savoie dépend à l'époque de la monarchie sarde. Joseph de Maistre a vécu donc dans cette Savoie où il a fait une carrière de magistrat, en atteignant d'ailleurs le sommet de la justice, puisqu'il devient sénateur en 1788. Joseph de Maistre, à cette époque-là, ne correspond pas tout à fait à ce qu'on peut imaginer pour l'intellectuel catholique qu'il deviendra. En effet, Joseph de Maistre se fait initier à la franc-maçonnerie de la loge des Trois Mortiers à Chambéry. Et Joseph de Maistre appartiendra longtemps à cette mouvance. Néanmoins, son originalité, c'est qu'il est attiré par la mystique religieuse. Il se fait donc parallèlement initié dans une loge lyonnaise de rite écossais, plus portée sur la mystique, et lui-même sera très influencé par les doctrines théosophiques, ésotériques et illuministes, notamment autour de quelqu'un comme Saint-Martin, philosophe, Claude de Saint-Martin, philosophe lyonnais, philosophe et mystique lyonnais. Joseph de Maistre s'est donc inséré dans une mouvance d'un renouveau mystique qui a, pour Cartes-Sept, certes une partie de la franc-maçonnerie, mais qui la dépasse aussi très, très largement.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, il n'est pas français, il est originaire de Savoie, qui dépendait de la Sardaigne. Il écrivait « Je ne suis pas français, je ne l'ai jamais été et je ne veux pas l'être ». Il entre dans la magistrature, il est toujours en Savoie et arrive cet événement majeur, hein, s'il en est, c'est la Révolution française, qui constitue un véritable choc puisqu'il est obligé de fuir. Comment il est obligé de fuir puisque la Savoie est envahie. Mais peut-être avant d'aborder ce choc de la Révolution française, quelques mots sur sa charge de magistrat.
Eh bien, il l'exerce, c'est effectivement intéressant parce qu'on sait que Joseph de Maistre est notamment l'auteur de pages sur la figure du bourreau qui ont laissé une empreinte forte. C'est d'ailleurs une des choses qui a contribué à diaboliser sa figure, cette page sur le bourreau. Son exercice de la justice montre que c'était un homme attaché en réalité au droit et à un exercice juste de son activité dans le cadre des tribunaux. Mais c'est effectivement une fonction qui a beaucoup compté dans son expérience aussi des hommes et de la nécessité du châtiment dans les sociétés politiques.
Alors, il est nommé sénateur en 1788, vous le disiez tout à l'heure, à l'âge de 35 ans. Mais cette charge sénatoriale, avec la Révolution française, il n'a guère le temps, j'allais dire, de faire ses preuves.
Oui, parce que effectivement, les armées françaises envahissent la Savoie le 22 septembre 1792. Et à partir de ce moment-là, Joseph de Maistre va être profondément mêlé aux vicissitudes de l'histoire européenne. Il part en exil d'abord à Turin par fidélité au roi et finalement, il s'installe à Lausanne en avril 1794. C'est d'ailleurs là qu'il fera la rencontre de rescapés de la répression révolutionnaire et notamment de celle qui est menée par Fouché à Lyon. Son indignation devant ces événements sera profonde et c'est à cette époque-là qu'il va écrire ses premiers textes contre la Révolution française, avec notamment les lettres d'un royaliste savoisien à ses compatriotes, dans lequel finalement ne se distingue pas une grande originalité par rapport à ce que peuvent écrire d'autres contre-révolutionnaires à cette époque, bien assez proche finalement des idées d'un Mallet du Pan. La grande rupture dans la pensée de Joseph de Maistre, ce sont les considérations sur la France de 1797, où Joseph de Maistre change finalement de plan dans la dénonciation de la Révolution française. Il passe à un niveau profondément religieux et métaphysique. À partir de ce moment-là, Joseph de Maistre développe une pensée et une vision intrinsèquement prophétique, qui cherche finalement à voir l'envers de l'histoire apparente, voir derrière le chaos confus des événements, le dessein de Dieu.
Donc la révolution en soi est providentielle ?
La révolution est providentielle en ce qu'elle est un châtiment. Et c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger, parce qu'on connaît souvent la phrase de Joseph de Maistre qui dit « Il y a dans la Révolution française un caractère satanique qui la distingue de tout ce qu'on a vu et peut-être de tout ce qu'on verra ». Et effectivement, Joseph de Maistre considère que c'est le mal en action. Mais en même temps, il précise bien que si Dieu efface, comme il dit, c'est pour réécrire. Et donc, la Révolution française doit accoucher de quelque chose de nouveau. Une contre-révolution sera nécessaire, mais quelque chose de nouveau va naître. Et donc, la pensée de Joseph de Maistre, contrairement à ce qu'on peut parfois croire, est aussi profondément tournée vers l'avenir. Et vers un avenir qui ne peut pas ressembler au passé, parce que Joseph de Maistre est convaincu que l'Ancien Régime avait de nombreux défauts, défauts qui expliquent la Révolution française. Et donc, il faut refonder religieusement les sociétés politiques pour échapper à ces désastres.
Est-ce qu'il donne, en cette période des élections, un programme, des moyens, ou bien son propos est uniquement religieux et philosophique ?
Son propos est d'abord religieux et philosophique, mais il s'efforce quand même d'expliquer comment la contre-révolution pourra avoir lieu. Et ça donne il faut, je crois, lire les considérations sur la France, ça donne des passages d'ailleurs assez amusants où il explique comment pourra s'opérer un ralliement à la monarchie, un ralliement progressif. Il explique en fait que finalement le premier qui aura le courage de dire qu'il est pour la monarchie, eh bien entraînera d'autres ralliements parce que les gens verront que des postes finalement sont à prendre et qu'il y a une période de changement. Et donc il a des considérations finalement assez triviales. Bon, sur le fond, comme moyen et comme programme de contre-révolution, ce n'est pas tout à fait convaincant.
Alors, il y a une autre étape, j'en reviens à la chronologie, il y a une autre étape très importante de sa vie, c'est l'époque de Saint-Pétersbourg.
Oui, effectivement, Joseph de Maistre est nommé ambassadeur de la monarchie sarde à Saint-Pétersbourg en 1803. Joseph de Maistre avait déjà occupé des fonctions politiques. Il y avait eu ce passage dans la justice. Il y a eu aussi un passage en Sardaigne où il avait été chargé de réformer la justice. Mais là, il obtient une charge prestigieuse parce que l'ambassade de Saint-Pétersbourg est quelque chose d'important et où il va connaître un certain nombre de succès importants. D'abord, Joseph de Maistre parvient à faire exister le royaume sarde sur la scène internationale, parce que la France avait dépouillé Piémont-Sardaigne de ses possessions continentales, et par conséquent, le royaume sarde ne représentait plus grand-chose. Or, Joseph de Maistre va réussir à faire exister ce royaume aux yeux du tsar, à tel point d'ailleurs que le tsar, attiré par ses talents, le tsar Alexandre Ier, lui proposera d'entrer à son service, ce que Joseph de Maistre refusera par fidélité dynastique. C'est aussi une époque de grande fécondité intellectuelle avec son essai sur le principe générateur des constitutions. C'est l'époque où il rédige une grande partie des soirées de Saint-Pétersbourg qui reste son chef-d'œuvre.
Alors, les soirées de Saint-Pétersbourg, le sous-titre en est « Entretien sur le gouvernement temporel de la Providence ». Là encore, il y a toujours une connotation religieuse dans son propos.
Oui, il cherche à lire l'histoire à travers l'action de la Providence, c'est-à-dire qu'il prend vraiment le contre-pied du naturalisme dominant depuis les Lumières. Mais c'est un livre avec des thèses très fortes, mais qui mérite d'être lu aussi pour son style. C'est un livre très, pour le coup, très littéraire, où il y a une mise en scène. Ce sont des entretiens un petit peu à l'antique, où Joseph de Maistre discute de tous ses grands problèmes.
Alors, le temps, malheureusement, nous faisant défaut, nous allons arriver à sa fin, sa mort.
Oui, il meurt en juin 1817, dans des circonstances difficiles parce qu'il avait connu de nombreuses désillusions. Son ultime ouvrage, Du Pape, donc un plaidoyer pour la papauté, a mis du temps à paraître. Il a été très contesté, notamment par les Gallicans français. Et il s'éteint en juin 1917, mais en réalité, c'est en février 1821 qu'il meurt, ayant dit quelque temps auparavant « je meurs avec l'Europe ».
Alors, aujourd'hui, Joseph de Maistre, en fait, nous apparaît comme un auteur très loin de nous. Comment l'aborde-t-on aujourd'hui? Et j'allais dire, on a l'impression qu'il est reconsidéré aujourd'hui par la plupart des auteurs, des chercheurs.
Oui, il avait été finalement un petit peu occulté, ou en tout cas, on avait usé avec lui de facilité d'étiquette. Et aujourd'hui, au contraire, on restitue toute la complexité de sa pensée qui ne se réduit pas à une simple doctrine, qui n'est pas simplement un maître de la contre-révolution. Il y a chez lui des intuitions très importantes et il y a un ouvrage assez récent paru aux éditions de l'Âge d'Homme, un dossier H sous la direction de Philippe Barthelet qui rassemble les témoignages de l'influence de sa pensée tout au long du 19e et du 20e siècle. Un dossier qui rassemble donc un certain nombre de contributions inédites, mais surtout des textes, tout ce qu'on peut dire, de grands intellectuels français ou étrangers, de la pensée de Joseph de Maistre, qu'il s'y oppose, comme un Isaiah Berlin par exemple, ou au contraire, qu'ils en fassent un maître.
Eh bien, Benoît Schmitz, je vous remercie beaucoup. Je renvoie nos auditeurs à cet ouvrage majeur pour découvrir la pensée de Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, paru dans la collection Les dossiers H de l'Âge d'Homme, paru en 2005. Et les éditions Robert Laffont vont aussi publier. Alors, je n'en ai pas la date.
C'est annoncé depuis longtemps, mais...
C'est annoncé dans la collection Bouquins.
Un
choix d'œuvre de Joseph de Maistre. Merci beaucoup et rendez-vous pour un prochain numéro des intellectuels catholiques du 19e et du 20e siècle.